Je souhaite très cordialement la bienvenue à tous dans le précieux nom du Seigneur et vous souhaite la bénédiction de Dieu. Lisons une parole du Seigneur tirée de 1 Pierre, le chapitre 2, du verset 1, avant la prière. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fausseté, l'hypocrisie, l'envie et toute calomnie. Verset 2, et comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel pur, afin que par lui vous grandissiez pour le salut. Verset 3. Si vous avez vraiment goûté que le Seigneur est bon, si vous vous approchez de lui, la pierre vivante qui, bien que rejetée par les hommes comme inutilisable, est considérée par Dieu comme un joyau choisi. Verset 5. Vous serez vous aussi édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. L'Écriture dit, en effet, voici que je mets en Sion une pierre d'élection, une pierre angulaire précieuse, et celui qui met en lui sa confiance ne sera jamais confondu. Verset 7, c'est donc à vous qui avez la foi qu'est destiné le bien précieux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est précisément lui qui est devenu la pierre angulaire. Verset 8. Et donc une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il se heurte à lui dans leur désobéissance contre la parole, ce à quoi ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Et vous devez proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous, qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois, sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche en miséricorde de Dieu. Verset 11. Bien-aimés, je vous rappelle à vous abstenir des désirs charnels qui sont en lutte avec l'âme, puisque vous êtes des étrangers et des hôtes. Verset 12. Conduisez-vous bien parmi les païens afin qu'en tout ce en quoi ils vous blâment comme malfaiteurs, ils glorifient Dieu après un examen minutieux à cause de vos bonnes œuvres au jour de la visitation de grâce. Nous pouvons entrer dans cette parole et nous y entrerons brièvement. Mais avant de le faire, levons-nous et prions. Père céleste, nous avons lu ta parole, ô Dieu. Elle a pénétré dans notre cœur. Tu nous parles comme un père parle à ses fils et à ses filles. Fais de nous des enfants obéissants en qui tu puisses prendre plaisir. Délivre-nous et détache-nous de toute désobéissance. Fais de nous un peuple de Dieu libre et consacré à toi, un peuple racheté. Édifie-nous aujourd'hui en esprit afin que nous puissions te rencontrer dans l'esprit. Seigneur, notre Dieu, fais-nous trouver grâce au jour de la visitation de la grâce. Seigneur, pardonne nos fautes et nos péchés. Nous nous inclinons devant toi, le Dieu saint et véritable, qui a des yeux comme des flammes de feu, devant lequel nul ne peut subsister s'il n'est sous le sang et s'il n'est en Jésus-Christ. Dieu fidèle, bannis tout esprit qui n'est pas de toi. Délivre-nous du mal et couronne-nous de grâce et de miséricorde. Seigneur, sois au milieu de nous aujourd'hui selon ta promesse. Nous te le demandons. Pour nous, ce n'est pas une évidence que tu nous parles, mais un grand privilège. Dieu Tout-Puissant, bénis-nous maintenant de la richesse de ta grâce. Nous plaçons cette réunion sous la direction de ton Saint-Esprit. Viens à ton droit, à moi et à nous tous. Et nous nous souvenons de tes serviteurs, de tes messagers et de tout ton peuple sur toute la terre. Seigneur, bénis-les aux quatre coins du monde et bénis-nous en ce lieu. Bénis tous ceux qui entendront et assisteront à ce service divin quelque part. Bénis-les, bénis-les de la richesse de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Vous avez certainement remarqué que nous sommes levés lorsque le chœur a été proposé. Tu es digne. Je veux dire que si selon Apocalypse 5, les troupes angéliques sont déjà tombées sur leur face et se sont prosternées en s'écriant, tu es digne. Alors, il nous revient au moins de nous lever avec respect et crainte devant le Seigneur, car lui seul est digne d'accepter la reconnaissance et l'honneur. Aujourd'hui, nous allons nous pencher brièvement sur un sujet que Dieu veut nous révéler par son Saint-Esprit et pour lequel il veut nous ouvrir l'entendement. Nous avons commencé par 1 Pierre, chapitre 2. Voici quelques phrases et expressions tout à fait marquantes et frappantes que nous avons entendues. Et nous avons lu jusqu'à la phrase selon laquelle ils loueront Dieu au jour de la visitation de la grâce. Pas au jour de la visitation du jugement, mais au jour de la visitation de la grâce. Il faut qu'à la fin du temps de grâce, il y ait encore une visitation de grâce divine qui saisira tous ceux qui sont désignés par Dieu. Leurs yeux s'ouvriront et ils comprendront que la grâce est une grâce et non un mérite. Et que nous ne pouvons tous devenir croyants et bienheureux que par la grâce. Je voudrais commencer par la parole du psaume 82 et passer ensuite au Nouveau Testament pour nous montrer aujourd'hui notre état tel que Dieu le voit et tel que nous nous tenons devant lui par grâce. Car si nous ne comprenons pas qui nous sommes, nous ne pourrons jamais être utilisé par Dieu dans la foi. Psaume 82, verset 1, Dieu se tient là dans l'assemblée de Dieu. Il exerce son jugement au milieu des dieux. Verset 2, jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Et prendrez-vous parti pour les hommes sans Dieu. Verset 3. Rendez justice aux petits et à l'orphelin. Faites droit à l'opprimé et à l'indigent. Verset 4. Sauvez le petit et le pauvre. Arrachez-le à la main des hommes sans Dieu. Verset 5. Mais vous êtes sans intelligence et sans connaissance. Il marche dans les ténèbres. Même si tous les piliers de la terre chancellent. Verset 6. Certes, j'ai dit moi-même que vous êtes des dieux et tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme n'importe lequel des Prince. Verset 8. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu es le maître héréditaire de toutes les nations. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Écriture nous montre qui nous sommes. Retenons en particulier les deux versets, à savoir le verset 1 et le verset 6. Dieu, verset 1, Dieu se tient là dans l'assemblée de Dieu en train de juger au milieu des dieux. Nous voulons savoir qui sont ces dieux. Pas des idoles, des dieux. Verset 6. J'ai bien dit moi-même que vous êtes des dieux et des fils du Très-Haut tout entier. Verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme n'importe lequel des princes. Nous avons ici deux choses. J'ai dit que vous êtes des dieux. Et d'autre part, vous mourrez comme des hommes. Passons à l'évangile de Jean au chapitre 10. Évangile selon Jean, chapitre 10. Nous lisons ici le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas, donc Jean 10, verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapiderons, mais pour blasphème. Et cela, parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Verset 34, Jésus lui répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Verset 35. Si l'Écriture a déjà appelé Dieu ces hommes à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut pas perdre sa validité. Verset 36. Comment pouvez-vous accuser de blasphème celui que le Père a consacré et qu'il a envoyé dans le monde parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Retenons ce qui suit. Notre Seigneur a dit ici aux Juifs, l'Écriture n'a-t-elle pas appeler Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et qui étaient ces hommes. C'étaient les prophètes à qui la parole de Dieu était adressée. Des hommes qui ont reçu la parole de Dieu. Les hommes qui ont reçu la parole de Dieu ont absorbé une substance divine et ont été appelés fils du Très-Haut aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si nous avons déjà parlé de cette pensée en ce lieu. Depuis quelques semaines, elle m'émeut profondément. Vous avez lu la prédication sur Melchisédek. Et nous y comprenons ce qui doit être exprimé. La parole, le logos, était l'apparition dans le corps spirituel. Nous qui étions en Dieu ou dans ses pensées de toute éternité, nous ne sommes jamais apparus auparavant dans le corps spirituel. Mais en nous débarrassant de cette enveloppe terrestre, nous serons transformés en corps de résurrection et deviendrons semblables au Seigneur selon 1 Jean 3, verset 3. Ici, dans cette parole, ce n'est pas un homme qui a répondu, mais le Seigneur lui-même. Ils l'ont accusé de blasphème et ont dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu toi-même. Et ce serait en effet un blasphème grave si un homme quelconque sur la terre prétendait être Dieu. Mais notre Seigneur n'a pas eu cette prétention. Il l'était. Il était Emmanuel. Il était Dieu avec nous. Bien sûr, il ne voyait que le corps de chair. Et ils auraient pu dire, nous te connaissons, nous connaissons tes frères et tes sœurs. Tu as été parmi nous pendant toutes ces années. Voilà l'étable où tu es né. Nous te connaissons. Qu'est-ce que tu fais de toi-même? Il était Dieu et homme, en une seule forme, en une seule personne. Et les hommes n'ont vu que l'extérieur et n'ont pas reconnu la révélation divine en Christ. Or, il y a un pas de plus dans le fait que notre Seigneur a été engendré par l'Esprit et qu'il était et est le Fils de Dieu, nous le savons. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous avons été faits fils et filles de Dieu par lui. Et nous devons comprendre que nous avons été placés dans une condition divine, dans un état divin. Les prophètes auxquels la parole de Dieu a été adressée ont été appelés Dieu, ont été appelés des dieux. Ils sont devenus participants de la nature divine de la parole éternelle de Dieu. Ils sont devenus une partie intégrante de Dieu en absorbant la parole divine. Et ils ont été immortalisés dans leur intérieur, dans leur âme, et ont été faits fils de Dieu. Et notre Seigneur dit, si l'Écriture a déjà révélé à ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire ceux qui l'ont reçu, avant même que le Christ ne soit manifesté. Considérez cet après-midi que les prophètes qui ont reçu la parole de Dieu dans la foi étaient déjà des fils du Très-Haut et étaient appelés des dieux avant même que la parole ne soit faite chair en Jésus-Christ notre Seigneur. Ils ont été appelés des dieux parce que le Dieu Tout-Puissant a fait sa demeure en eux par sa parole vivante et inviolable. Vous êtes tous des dieux et des fils du Très-Haut. Voilà le grand mystère. On aurait pu aller voir Noé à qui la parole du Seigneur fut adressée et lui dire, Noé, nous te connaissons, nous connaissons ton histoire et ainsi de suite. Noé, nous te connaissons, tu es comme tous les autres hommes et tu mourras de la même façon. On pourrait plus aller voir Abraham et tous les prophètes et dire, ne fais rien de toi-même. Ne t'imagine pas que tu es différent du reste des gens qui t'entourent. Tu dois manger et boire de la même manière. Tu es exactement comme nous tous. Nous te connaissons depuis assez longtemps. Bien-aimés, en apparence, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Élie, Élisée et tous les prophètes, ils étaient en apparence comme toi et comme moi, comme leurs contemporains et comme nos contemporains. Et il est écrit dans Jacques 5, Élie était un homme comme nous. Pas un autre, il n'y a jamais eu d'autres hommes. Ils agissent simplement différemment, mais ne sont pas différents. Mais ces hommes, qui ne pouvaient pas le montrer extérieurement, que l'on aurait pu, si on l'avait voulu, montrer du doigt et dire, homme, arrête donc. Maintenant, ces hommes à qui la parole de Dieu avait été adressée Il n'avait pas commencé et il ne pouvait pas non plus s'arrêter. Le Seigneur leur avait parlé et avait produit quelque chose de divin dans leur âme et les avait déjà appelés fils du Très-Haut dans l'Ancien Testament. Les hommes auxquels s'adressait la parole que nous avons aujourd'hui comme parole prophétique dans l'Écriture sainte, dans les saintes Écritures, étaient des dieux parce qu'ils avaient absorbé le divin en eux, reçu le divin en eux. La compréhension humaine dirait, il est écrit dans le même verset ou dans le suivant, tout de suite, je vous ai dit que vous êtes des dieux et que vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais que vous mourrez comme des hommes. Oui, tout cela est vrai. Ils sont morts comme des hommes. Mais le jour de la résurrection a déjà fait savoir au sein de l'Ancien Testament qu'ils sont certes morts, comme meurent les hommes, mais qu'ils sont ressuscités. Si nous lisons Matthieu 27, du verset 51, lorsque le Christ, notre Seigneur, mourut sur la croix à Golgotha, les ténèbres se firent, le soleil perdit son éclat, un tremblement de terre se produisit, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Puis il y a la parole glorieuse. Et plusieurs des saints qui s'étaient endormis se tinrent debout ou sortirent de leur sépulcre après sa résurrection et apparurent à plusieurs dans la ville sainte. Il est vrai que les prophètes étaient des hommes comme toi et moi, mais du fait que la parole de Dieu leur a été adressée, qu'ils y ont cru et qu'ils ont reçu en eux la semence divine, éternelle. Ils sont devenus participants de la nature divine par la parole de notre Dieu, et ce, dès l'Ancien Testament déjà. Ils ont cru en Christ. Ils savaient qu'il viendrait et serait manifesté dans la chair. Et Job l'a exprimé et dit, même si les vers rongent ce corps, je verrai mon Dieu, car il sera le dernier à paraître sur la terre. Ce sont des hommes de Dieu qui ont parcouru cette terre et qui ont porté la semence divine, et ils ne l'ont pas seulement portée pour d'autres, mais ils sont devenus participants des promesses qu'ils ont portées et qu'ils ont annoncées. Et c'est pourquoi il est écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'ils n'ont pas pu être achevés sans nous, accomplis sans nous. Ils doivent donc attendre que nous soyons nous aussi ajoutés. Peut-être voulez-vous que je vous le lise. Hébreux chapitre 11, c'est le dernier verset, verset 40. Parce que Dieu avait prévu pour nous quelque chose de meilleur, il ne devait pas parvenir à la perfection sans nous. Hébreux 11, verset 40. S'il vous plaît, comprenons-le cet après-midi. Les hommes de Dieu à qui la parole de Dieu a été adressée ont été appelés des dieux et fils du Très-Haut. Ce sont des hommes qui ont reçu la semence divine sur cette terre et qui ont laissé un témoignage vivant de ce qu'ils avaient cru de ce qu'ils avaient cru, ce que Dieu leur avait dit. Jésus, notre Seigneur, était le résumé de l'accomplissement et le résumé et l'accomplissement de tout ce que les prophètes avaient dit. En lui, toute la parole s'est faite chair. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils, engendré par Dieu seul, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Mais cela ne s'arrête pas là. De même que la parole adressée au prophète n'a pas pu revenir à vide, sans effet, mais a trouvé son accomplissement. De même, chaque parole doit trouver son accomplissement dans l'Église et par l'Église. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes encore des hommes selon le corps et que nous attendons avec impatience la transformation de notre corps et que nous souhaitons que ce soit aujourd'hui plutôt que demain. Mais n'oublions pas non plus le fait valable pour l'éternité que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si quelqu'un vient te voir ou me voir et me dit, écoute, tu dis si bien que tu seras enlevé et que tu fais partie des élus, que fais-tu de toi-même? Ils sont venus voir notre Seigneur et ont dit, tu as blasphémé contre Dieu. Tu es un homme. Nous t'avons vu ici pendant toutes ces années. Que fais-tu de toi-même? Bien-aimés, nous sommes des hommes, mais pas seulement des hommes. Nous vivons et mourons comme les autres. Mais à la résurrection, la différence sera faite. La mort n'est en effet que la fin d'une étape. Et la résurrection marque le début de la deuxième étape. Ainsi, ceux de l'Ancien Testament qui devaient parvenir à la première résurrection sont ressuscités avec le Christ. Tout comme maintenant, ceux qui sont appelés et enlevés en tant qu'Église épouse, en tant que troupe élue, ce sont les prémices. Et puis, il y aura la deuxième résurrection à la fin, après les 1000 ans. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer que nous ne devons pas nous regarder nous-mêmes, mais regarder au Dieu vivant dont nous avons reçu la parole ici dans nos cœurs. Ce n'est pas toi et moi qui faisons de nous des fils ou des filles de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la semence éternelle de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu et nous y tenons. Tous ceux à qui la parole a été adressée étaient des dieux. Et il est dit, Dieu est au milieu de l'assemblée de Dieu. Nous voulons devenir une assemblée de Dieu au milieu de laquelle Dieu peut être. Et je crois que si les prophètes qui attendaient encore l'accomplissement de la parole étaient déjà appelés des dieux et que le Seigneur dit qu'il se tient au milieu de l'assemblée de Dieu et qu'il tient le jugement. Des dieux au milieu de celle-ci, si déjà ceux d'alors, d'autrefois, lorsqu'ils se réunissaient, faisaient l'expérience de la présence de Dieu lui-même, combien plus pouvons-nous compter, nous qui vivons à la fin du temps de la grâce, sur le fait que Dieu engendrera une race divine à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres, Paul, ou celui qui l'écrit, donc Luc, prononce une parole très importante. Il est écrit ici à partir du verset 27. Acte 17, verset 27. Qu'ils cherchent Dieu s'ils peuvent le voir et le trouver, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. Verset 28, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Comme l'ont dit certains de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Verset 29, ainsi parce que nous sommes de race divine, nous ne devons pas penser que la divinité est semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre, qui sont des objets d'art et de réflexion humaine. C'est principalement cette expression qui m'intéresse ici, parce que nous sommes maintenant de race divine. De même que nous portons tous en nous, sur terre, l'image du premier Adam, de même nous qui sommes venus à la foi vivante en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons reçu la vie éternelle et nous sommes de race divine et nous sommes devenus participants de la nature divine, né de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et de même que Dieu n'est pas comparable à ce que les hommes peuvent sculpter dans l'or, l'argent, les pierres ou les bois, ce ne sont pas des dieux, ce sont des idoles, ça. Et les enfants de Dieu ne sont pas des idoles sculptées ou fabriquées et façonnées par l'homme sans vie. Les enfants de Dieu qui ont reçu la parole du Tout-Puissant et qui sont nés de nouveau pour une espérance vivante ont été rendus vivants. Ils sont ressuscités avec Christ, car c'est ainsi que c'est écrit. Si nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes aussi ressuscités avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie. Nous savons qui est le Christ. Et maintenant, nous savons aussi qui étaient les prophètes. Ils marchaient sur cette terre terrestre, avec des pieds terrestres. Mais ils étaient porteurs de la parole divine qui leur avait été adressée. Et cette semence divine dans leur cœur les a rendus participants de la nature divine et des attributs divins. Et ils sont devenus ainsi héritiers des promesses de Dieu. Ils les contempleront avec nous, mais ils n'ont pas pu trouver leur perfection sans nous. Nous arrivons maintenant à notre époque. Je voudrais présupposer que tous ceux qui sont ici cet après-midi sont plus ou moins familiers avec le ministère prophétique de la fin des temps. Et nous savons tous que la parole de Dieu a été adressée à l'un des plus grands prophètes et que cet homme a été rendu participant de la nature et de la nature divine et des attributs divins et qu'il a pu devenir un canal par lequel la puissance créatrice divine et la puissance de salut et de guérison ont pu s'écouler. Mais cela ne doit pas être marqué d'un point et donc considéré comme terminé, mais tout au plus d'une virgule. Et la suite est la suivante. Ce que Dieu a fait par l'intermédiaire du messager, c'est uniquement pour montrer ce qu'il fera par l'intermédiaire de ceux qui ont donné foi au message divin de l'heure. Et vous, bien-aimés, vous direz peut-être, oui, quel genre d'homme était-il? C'était un homme comme vous et moi, comme vous et moi. Il conduisait une voiture comme toi et moi. Il était au volant et j'étais assis à droite sur le siège avant, à côté de lui. Et derrière nous étaient assis frère Wood et frère Soffman. Nous étions assis à la même table. Nous mangeions et buvions. Extérieurement, il n'y avait aucune différence à voir. J'étais dans son appartement, dans sa maison. La cuisine était la cuisine. Le salon était le salon. La répartition était comme celle de tout, comme chez tous les gens. Et si l'on regardait à l'extérieur, on voyait arriver un homme pas trop grand, des montagnes du Kentucky, un hillbilly, comme on appelle les gens de cette région. Et quand il se tenait sur la plateforme, et qu'après la prédication, l'effet par l'esprit était parmi l'auditoire, il disait, j'attends l'ange du Seigneur. Sans lui, je suis aussi impuissant que vous tous. Puis, il a fait une seule déclaration et a dit, ce n'est pas moi qui actionne ce don, qui exerce ce don. C'est vous qui exercez ce don divin par la foi. Nous y voilà. Croyez-vous aujourd'hui que nous sommes des fils et des filles de Dieu? Pensez-vous que nous sommes des idoles mortes ou que nous sommes une race divine d'hommes nés de nouveau qui ont reçu ou croyez-vous que nous sommes une race divine d'hommes nés de nouveau qui ont reçu la parole de Dieu pour ce temps comme une semence dans leur cœur? Frère Branham m'a dit, la police m'a arrêté, le feu droit était éteint sur la voiture et elle a dit, écoutez, je dois vous donner un billet, c'est-à-dire une amende. Un homme à qui il pouvait arriver n'importe quoi, comme à toi ou à moi. Un homme comme nous, purement extérieur, mais intérieurement un homme de Dieu, un prophète du Très-Haut, un porteur et un révélateur des mystères divins qui lui ont été révélés et communiqués. Est-ce là tout? Non, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le deuxième côté consiste en ce que Dieu, par la parole prophétique révélée, produit une foule qui a part à la nature divine. Je vous pose une question. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas dit tous les sacrificateurs, les descendants d'Aaron et tous les Lévites, les descendants de Lévi, sont des fils du Très-Haut, car ils me servent dans mon sanctuaire et ainsi de suite? Non, il ne s'agit pas seulement de célébrer un service divin. Il s'agit de recevoir la parole de Dieu et de ne pas célébrer un service divin uniquement à l'extérieur, mais de recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs au nom du Seigneur. Lors du service divin, les prophètes ne faisaient pas ce que faisaient les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient une tâche de routine. Ils faisaient la même chose à chaque sabbat. Un prophète ne faisait pas la même chose à chaque sabbat, loin de là. Et chaque prophète ne regardait pas ce que faisait un autre pour faire la même chose. Mais la parole de Dieu est venu au prophète et le Seigneur leur a parlé, leur a fait connaître et leur a révélé sa parole et sa volonté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tous les prédicateurs sont capables d'organiser un beau service divin. Tous les évangélistes ont un excellent programme et les gens sont tenus en haleine du début à la fin au point qu'ils osent à peine respirer. Et une ambiance est créée à laquelle on repenserait peut-être encore quelques jours. Mais Dieu n'est pas dans une telle ambiance. Dieu est dans sa parole. Et si les prophètes auxquels la parole de Dieu a été adressée ont été appelés des dieux, que dirons-nous aujourd'hui, nous à qui toute la parole a été adressée dans ces derniers temps? Bien-aimés, Dieu a fait de nous quelque chose de glorieux. Vous êtes un peuple saint, un sacerdoce royal. Vous êtes le peuple qui a été choisi pour être ma propriété. Que voulez-vous de plus? Dieu a-t-il pu faire plus que ce qu'il a fait? Il a fait connaître son plan de salut et nous a ouvert les yeux et le cœur. Nous pouvons croire. Je dois conclure, car le temps est écoulé. Nous pourrions lire dans 2 Pierre, au chapitre 1, que les plus grandes promesses nous ont été faites et que nous aurons part à la nature divine. Et ici, dans cette pièce, dans cette salle, sont assises 2 sœurs âgées qui nous ont fait part à frère Kupfer et à moi de quelque chose en entrant dans le couloir. Et l'une des sœurs a vu la résurrection. Et j'ose à peine dire dans quel contexte tout cela s'est produit. Frère Kupfer est assis là. Les deux sœurs aussi, si cela ne les dérange pas, elles pourraient se lever pour que vous sachiez que je dis la vérité. Elles sont certainement trop timides. Elles sont là toutes les deux. Voici une sœur. Merci ma sœur. Et là, il y a l'autre. Demandez à ces deux sœurs, et surtout ici à l'une d'elles, ce que Dieu leur a révélé. Et je crois de tout mon cœur qu'en tant que porteur de ce message, je crois de tout mon cœur que nous, en tant que porteurs de ce message divin, que nous ne renierons en aucun cas, même au prix de notre vie, qu'en tant que porteurs de cette parole prophétique, nous sommes des fils et des filles de, et donc des fils de la résurrection. Et Dieu a dit qu'il n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Et savez-vous, quand il a dit cela, quand il est apparu à Moïse dans le feu de, dans le buisson ardent, dans le feu du buisson. Et le Seigneur Jésus reprend cette parole dans le Nouveau Testament et dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc ce n'est pas parce que je suis ici devant aujourd'hui, mais la sœur a vu ce que frère Branham a vu il y a des années. Et elle a vu le dernier contexte qui a conduit jusqu'à la résurrection des morts, le changement, la transformation et l'enlèvement. Il y a une semaine, elle disait encore tout à l'heure que lorsqu'elle y pense, elle tremblait de tout son corps. Bien-aimé, Dieu est parmi son peuple. Et il ne s'agit pas aujourd'hui d'un frère Branham, ni d'un frère Frank, ni même de Paul ou de Pierre. Et pourtant, il s'agit de tous ceux par qui Dieu a parlé. Nous pouvons faire la distinction entre l'enthousiasme que les hommes peuvent susciter et entre ce qui vient de Dieu. Permettez-moi de dire une chose en conclusion. Tenez fermement ce que Dieu nous a donné par grâce. Vendredi dernier, un homme est venu chez moi. Il voulait me convaincre que Dieu avait maintenant un huitième messager, que frère Branham lui était apparu et ainsi de suite. Bien-aimé, je le confesse devant Dieu et qu'il me fasse grâce. C'est là que les chevaux se sont emballés pour la première fois. J'ai dit à cet homme qui venait de finir de parler sans attendre un instant les mots suivants. Maintenant, c'est Satan qui a parlé à travers toi, comme il parlait autrefois à Jésus et interprétait les Écritures à l'envers. Et il voulait me dire, oui, le huitième est dans Apocalypse chapitre 1. Je lui ai dit, où est le huitième? Il me dit, dans Apocalypse 1. J'ai dit, dans Apocalypse 1, Jésus-Christ, mon Rédempteur, marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je ne veux pas qu'on l'appelle le huitième. Il est mon Seigneur et mon Rédempteur. Et dans sa droite se trouvent les sept étoiles, les sept anges des sept églises. Cela m'est tombé dessus. Et tout ce que je lui ai encore dit, je ne peux pas le dire ici. À la fin, je n'ai eu qu'à dire, frère, pardonne-moi, le zèle pour la maison de Dieu m'a dévoré. Je n'ai pas pu faire autrement. Et vous savez ce qui s'est passé? Il se leva d'un bond de son banc et voulait se jeter à terre pour me demander pardon. Je lui ai dit, mais non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Je lui ai simplement dit, j'ai honte que des gens comme toi se soient assis pendant des années sous la véritable prédication de la parole de Dieu et qu'ils puissent tomber dans n'importe quelle erreur. L'homme voulait me payer le voyage en Amérique pour que je rencontre le 8e messager. Oh mon Dieu! Bien-aimé, la fin de toutes choses est là. Il n'y a que cet âge de l'Église, qu'un chandelier à cette branche, que sept anges et que sept messagers à l'Église. Et la Bible dit qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu arrivera à son terme, comme il l'a annoncé avec assurance à ses serviteurs, les prophètes. Il est honteux que des personnes qui ont écouté la parole de Dieu pendant de nombreuses années se laissent ensuite prendre à n'importe quel facteur de calamité. Et ce sont des brigands, en fait, des bandits et des coyotes qui sont sortis et ils sont au milieu du peuple de Dieu. Et Paul dit dans Actes 20, du milieu de vous sortiront ceux qui introduiront des doctrines pernicieuses. Si ces choses viennent de l'extérieur, nous pouvons les repousser. Mais si elles commencent par au milieu de nous, comme un cancer, puis se répandre et continue à ronger et à détruire. Oh, bien-aimé, la révélation divine lit. La révélation divine conduit à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et nous n'attendons plus que quelqu'un d'autre vienne. Nous attendons le retour de notre Seigneur. Après que Jean-Baptiste eut apporté son message, il n'y eut pas d'autre messager, mais il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. Notre frère Branham a attiré notre attention sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Que les gens qui sont eux-mêmes tordus, tordent toutes sortes de choses, on en est même arrivé à déformer les mots dans la bouche de quelqu'un. Avez-vous déjà vécu cela? C'est incompréhensible, voire inconcevable. Mais grâce soit rendue à Dieu, il a une troupe que Satan peut harceler et frapper à coups de poing. Mais au plus profond de leur âme, ils portent la semence divine de la parole de Dieu. Et aussi certainement que les prophètes qui ont porté la parole, aussi certainement que nous qui avons reçu la parole prophétique et toute la proclamation de la parole du conseil divin de salut, nous sommes devenus des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Affermissons-nous. Et cela se fait par grâce. Dieu a envoyé un message pour nous ramener à cette parole de Dieu, à cette parole. Souvenez-vous de la parole d'introduction. Afin qu'il glorifie le Seigneur au jour de la visitation de la grâce. 1 Pierre 2, verset 12. Le jour vient où beaucoup de ceux qui aujourd'hui médisent, calomnient et parlent mal, qui aujourd'hui commettent des diffamations, quand ils verront la visitation de la grâce divine parmi le peuple de Dieu, ils ne pourront s'empêcher d'abandonner leur résistance intérieure et de louer Dieu au jour de la visitation de la grâce au milieu de son peuple. Je pourrais maintenant vous amener aux actes de l'apôtre chapitre 3, du verset 21, 22 et 23. Il y est écrit que Jésus doit demeurer dans le ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses et que Dieu enverra le temps du rafraîchissement. Alléluia. L'un va avec l'autre. Et nous voyons comment Dieu réunit les choses. Ce que l'on ne savait pas encore il y a 4 semaines est aujourd'hui une révélation divine claire. Et nous voyons le sens et le but du mandat divin avec le message prophétique dans ces derniers temps. Tous ceux à qui Dieu a fait grâce, tous ceux qui peuvent croire, tous ceux qui adhèrent de tout cœur à ce que le Seigneur a dit, croyez-moi, aussi certainement que ces prophètes sont ressuscités avec Christ lors de sa crucifixion et de sa résurrection. C'est ce qu'écrit Paul dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. De même, Dieu réunira certainement ceux qui sont endormis avec Christ. Il le fera. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons déjà été transférés avec lui dans le monde céleste. Nous n'attendons plus que le moment où cela se produira réellement. Et cela va bientôt arriver. Alléluia! Gloire et honneur à notre Dieu. Bien-aimé, si je ne suis pas physiquement en mesure aujourd'hui de souligner ainsi à haute voix ces vérités biblique. Je suis convaincu que le Saint-Esprit inscrit dans vos cœurs la parole qui a été apportée et en fait une révélation et une réalité vivante. Les prophètes étaient des hommes. Ils sont morts comme tous les autres. Hébreux 11 dit que certains ont été lapidés, tués, sciés, etc. Ils sont morts comme des hommes, mais ils sont ressuscités comme des fils de Dieu. Bien-aimés, nous marchons sur cette terre en tant qu'êtres humains. Et beaucoup ont même été offensés par le départ de frère Branham, et on dit, s'il était un si grand homme de Dieu, pourquoi a-t-il dû mourir des suites d'un accident de voiture? Bien-aimés, Dieu dispose les choses de telle sorte que les hommes qui ne pensent pas divinement trébuchent et en sont confus. et d'autres s'en relèvent et disent, « Oui, bien qu'il ait été un si grand prophète, il était tout aussi humain que nous tous. » Avec Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Chez lui, il n'y a que des tâches et des mandats différents. Et cela ne rend personne grand ou petit, mais nous donne simplement une grande responsabilité que nous avons ensuite dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ensemble de la richesse de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.